Bordeaux Colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Un moment de littérature émancipatrice. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'un moment de littérature émancipatrice consacré à la littérature de combat. Pour cette dernière émission de la saison, nous retrouverons les rubriques Un livre, un auteur, Parole de libraire dans la librairie, Le partage des mots à Villeneuve-d'Ornon. Nous retrouverons également la rubrique Cinéma de Paul Yabastre. Bonjour Paul. Bonjour. Quel sera le thème de la chronique aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler d'Octobre à Paris, un film documentaire de Jacques Panigel sur le massacre de la manifestation du 17 octobre 1961, qui a été tourné entre octobre 61 et mars 62.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de l'artiste Zineb Sedira.
Et c'est Gérard.
Bonjour.
Qui réalise l'habillage musical de la rubrique Un livre, un auteur et toute la technique de l'émission sur la Clé des Ondes. La radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Un livre, un auteur. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine, bonjour à toutes et tous.
De quel livre et de quel auteur sera-t-il question aujourd'hui ?
Bien, le roman, c'est Le visage de Pierre, édité en 1963 aux éditions Chatham-Bousseleger, traduit et paru en France chez Christian Bourgois éditeur en 2021, dans une traduction, de Brice Mathieu-Sand. L'auteur en est William Garner Smith. Le récit, hymne pour la résistance et contre les injustices, raconte la répression contre les Algériens dans les années 60 à Paris.
Résumé. Aux États-Unis, Siméon est agressé 3 fois depuis son enfance à raison de sa couleur de peau. Il vient en France pour échapper à la violence qu'il croit oublier au cœur de la diaspora états-unienne à Saint-Germain-des-Prés. Il rencontre des Algériens qui lui renvoient la réalité de l'État colonial français et est témoin du massacre du 17 octobre 1961.
Alors, ce qui interroge d'abord, c'est le très étrange et très long délai, à savoir près de 60 ans, entre la première parution du livre, en 1963 donc, et sa traduction, en 2021, et alors que tous les autres livres de Garner Smith l'ont été. Et il est ainsi assez effarant de constater que c'est sans nul doute parce que ce livre décrit le sort réservé aux Algériens en France dans les années 1960, met en scène le massacre du 17 octobre 1961, l'un des nombreux événements indignes de la guerre d'Algérie, et met ainsi en lumière ces zones d'ombre du récit national et du passé colonial français qu'il en est ainsi.
Année 60, commissariat. Le sergent dit, écoute, moi, je ressens aucune pitié pour toi. Si tu dis la vérité, ça t'apprendra à ramener cette fille chez toi. T'as pas le droit d'attaquer les touristes dans ce pays. T'aurais dû rester en Algérie, où qu'est ta place. Il se tourna vers les flics. Bouclez-le, les autres aussi. Une nuit en prison leur fera le plus grand bien. L'Américain aussi voulut savoir un policier. Non, pas monsieur. Siméon adressa un regard suppliant aux Algériens pour qu'ils lui pardonnent. Ils ne lui rendirent pas son regard. Il protesta auprès du sergent. « Mais je ne porte pas plainte. J'ignorais qu'il s'était fait voler sa paix. Il ne mérite pas d'être enfermé. Tout était de ma faute. » Le sergent fronça les sourcils. « Vous êtes en train de nous dire comment nous occuper de notre pays ? Très bien, foutez-moi le camp. » Un policier accompagna Siméon jusqu'à l'entrée du commissariat. Siméon se retourna vers les Algériens qu'on rudoyait pour leur faire franchir une porte au fond de la pièce. Le policier posa une main sur l'épaule de Siméon et dit « Vous ne comprenez pas, vous ne les connaissez pas, les Arabes. Toujours à voler, à se battre, à se bagarrer, à taillader, à tuer. C'est une vraie calamité. Vous êtes étrangers, vous ne pouvez pas savoir. Une nuit en prison, il s'en tira bon compte. » Destin en couleur. Ils sirotèrent le café en silence. Siméon regarda les deux hommes. Ils avaient la peau vraiment blanche, on aurait dit des Slaves du Sud. La façon dont Hussein l'avait traité d'homme blanc pour plaisanter était ridicule, pensa-t-il. Comme si lui, Hussein, n'était pas blanc. L'un des Brésiliens avait expliqué à Siméon qu'en Amérique du Sud, lorsqu'un Indien ou un Noir devenait riche ou bien général, on le considérait officiellement comme blanc. C'était délirant. Le monde se réduisait à une pyramide où les peuples les plus riches et les plus puissants se trouvaient au sommet, les Européens du Nord, les Anglais et plus récemment les Américains. Ils imposaient leur échelle dégressive au reste du monde. Ici, l'homme noir était inférieur. Là, c'était l'arabe, là, le juif, là, l'asiatique, selon l'endroit où vous habitiez. Et les hommes qui devenaient riches et puissants à cause d'un accident de l'histoire étaient ceux qui ont décidé, durant une époque particulière. Hussein dit « Alors, que penses-tu de notre château ?» Il me rappelle les taudis de Harlem ou de Philadelphie. Hussein acquiesça. Il regarda Siméon avec attention et ajouta « Les Noirs américains devraient se révolter comme nous l'avons fait. Et nous n'avons pas d'Algérie à libérer, dit Siméon. Vous avez un continent, l'Afrique. »
C'est d'ailleurs l'intérêt principal et essentiel de ce court roman, dénoncer les injustices liées au racisme principalement aux États-Unis et en France. Le parallèle entre ces deux pays dans la dénonciation du fait raciste est renforcé par un effet de miroir, voire de mise en abîme de deux situations, la ségrégation et la violence contre les Noirs aux États-Unis et la répression violente des Algériens assimilés aux Arabes en général en France. L'habileté narrative du roman tient d'ailleurs essentiellement par l'illustration de la dénonciation du concept raciste qui ordonne les relations humaines et qu'on peut alors présenter de la sorte « on est toujours le nègre de quelqu'un ». Le récit est ainsi parsemé de courtes anecdotes illustrant cette thèse et la fiction est au service de la dénonciation. Ainsi, Siméon, le personnage principal, noir états-unien qui fuit son pays justement pour cette raison, est-il traité de blanc à Paris par Ahmed, algérien colonisé, quand celui-ci est traité de bougnoule par les Parisiens, alors que Maria, réfugiée polonaise, est traitée de sale juive? Quant aux blancs et les soviétiques, par exemple, qui contestent l'ordre capitaliste anglo-saxon, ils se retrouvent, pour cette raison, traités à leur tour de nègres.
Années 60, les États-Unis. Dieu est de notre côté, dit la mère de Lulubelle. Il ne soutient pas ces crapules blanches qui hurlent leur haine du fond de leur cœur. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas, ma chérie ? Nous ne pouvons pas les laisser nous opprimer éternellement. Tu comprends ? Oui, je comprends. Tu as peur ? Non, mentit-elle, en étouffant presque à cause de son cœur qui lui martelait la gorge. Et le lendemain matin, elle avait traversé le purgatoire, sans tourner la tête pour regarder ces gens qui hurlaient leur saleté. Effrayée, mais fière. Parce que papa et maman étaient là, quelque part, là derrière, même si elle ne pouvait pas les voir. Et tous les noirs de la ville étaient là derrière, pour la protéger. Et quelques blancs aussi étaient là pour la prendre en photo. L'image serait publiée dans les journaux et dans tout le pays, dans le monde entier. Les gens de couleur la verraient, maman l'avait dit. Tous seraient fiers d'elle parce qu'elle ne montrait pas qu'elle avait peur. Salope de négresse, tu vas pas fréquenter cette école longtemps. Couillon de noiron, on va te tuer avant la fin du trimestre. Retourne auprès des nichons tout mous de ta nounou que t'aurais jamais dû quitter. Elle les entendit, mais elle ne leur révélerait jamais à quelle vitesse stupéfiante battait son cœur. Elle ne leur montrerait jamais combien elle avait peur. Parce qu'elle était folle de rage. Elle n'aimait pas ces cinglés. Au fait, pourquoi aurait-elle dû avoir peur ? Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur. C'était eux, ces gens-là, qui avaient peur du petit bout de chou qu'elle était. Ils étaient cinglés. D'où Jésus ? Ils étaient vraiment cinglés. Comment Jésus avait-il bien pu créer des cinglés pareils ? Marchant la tête très droite, sans avoir peur, elle entra dans l'école.
L'importance du message explique la construction narrative, parfois un peu simple, la description des scènes de vie, parfois un peu cliché, le rôle des personnages, quelquefois un peu stéréotypés. Clairement, c'est la narration qui sert le propos. Ainsi, le récit est rédigé au temps du passé. Le narrateur raconte à la troisième personne, pour rendre le récit en apparence plus objectif, mais en fait, le point de vue est toujours celui des personnages et singulièrement celui de Siméon. C'est donc à travers de celui-ci que le lecteur découvre, au-delà de l'apparence d'un environnement séduisant, ce qu'était l'État colonial fait subir aux Algériens en lutte pour l'indépendance de leur pays. Le découpage de la structure narrative relève de la même logique et les péripéties s'enchaînent de façon chronologique avec cependant quelques retours en arrière, aux États-Unis par exemple, qui éclairent le lecteur sur la personnalité de Siméon. Il en est de même pour les personnages. Tel Siméon qui apparaît comme une sorte de caution morale exemplaire où les membres de la diaspora états-unienne, souvent artistes intellectuels, comme des rescapés qui profitent de ce nouveau mode de vie. Ou encore Maria, décrite comme une femme libre, mais qui en fait semble sacrifier cette indépendance à sa réussite en tant qu'actrice. Enfin, et surtout, tout le récit en fait nous y ramène. Le roman se termine par le récit terrible et implacable de la manifestation du 17 octobre 1961 qui entraîne l'émotion du lecteur et fait le terrible constat de la violence inouïe de la puissance coloniale envers les Algériens.
Le roman, précisément daté et renseigné, tient donc aussi du documentaire et permet au lecteur de se souvenir, voire de découvrir des événements particulièrement odieux de l'histoire contemporaine des États-Unis, comme de la France. Ainsi, le récit rappelle-t-il la très difficile conquête des droits civils aux États-Unis, avec par exemple l'arrivée dans certains établissements publics d'éducation d'élèves noirs, ou les humiliations quotidiennes subies par les noirs. Le texte renvoie alors à cette période où les lois ségrégationnistes mises en place depuis 1877 sont peu à peu abolies avec les Civil Rights Act de 64 et 68. Puis le récit décrit la vie souvent rêvée dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris dans les années 60, faite de discussions politiques, de musique et notamment de jazz, et de tolérance en particulier envers les Noirs. Mais et surtout, le texte confronte les personnages. Le personnage principal, alors, à la guerre coloniale en Algérie et à la condition des Algériens exploités, humiliés victime de racisme, ce qu'il ignorait totalement. Il découvre alors la terrible réalité des conditions de vie et de considération faites aux Algériens à Paris. Quartier de bidonville ghettoisé, répression policière et humiliation quotidienne, jusque dans ce monde pourtant si libéré de Saint-Germain-des-Prés, où les Algériens se voient refuser l'entrée dans certains établissements.
Années 60, Saint-Germain-des-Prés. Les quatre hommes sourirent. « Hey, les petits gars, êtes américains ?» Pas de réponse. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis juste amical. Ça fait du bien de rencontrer d'autres américains par ici, voilà tout. Quand on en a marre de ces enfoirés de grenouilles. » Babé leur répondit « Mec, on n'est pas des petits gars, je suis assez âgé pour être le mari de ta mère. » L'homme lâcha un rire nerveux. « Zedou, aux States, moi je viens de l'Utah. Mes amis et moi, on a fait un voyage éclair, mais on meurt d'envie de rentrer au pays. Je parie que vous autres, les gars, vous vous plaisez ici. Vous n'êtes jamais aussi peinards, hein, avec toutes ces blondes et le reste. » Sa voix sonore résonna dans toute la pièce et les autres clients du club firent silence. Alors Siméon dit « Mais exactement. » On n'a jamais été aussi peinard, parce qu'ici, on est loin de vous. J'ai fait quoi ? Pourquoi vous êtes tout le temps aussi susceptible ? L'un de ses amis intervint. Laisse tomber, Jim, allez, bois ton champagne. Ces gars se la pètent ici, car les bouffeurs de grenouilles leur laissent les coudées franches. Il montra à Siméon du doigt. J'ai un petit conseil à te donner, gars. Reste ici. Tu joues au caïd depuis que tu es arrivé dans ce pays, mais si jamais tu reviens aux States, tu peux compter sur nous pour te rabattre le caquet. Le patron et le serveur observaient la scène de loin, mais lorsque Siméon et Babé se levèrent et se dirigèrent vers les quatre hommes, le patron s'interposa. « Je suis désolé, dit-il au blanc, je dois vous demander de partir. » Ils n'en revinrent pas. L'un d'eux s'étonna. « Comment ça ? Vous êtes cinglé ou quoi ? Vous allez expulser des blancs et garder les négros ?» Le patron répondit dans un anglais parfait. « Je vous prie de partir, sinon je devrais appeler la police. » Il y a certaines choses que vous devez laisser derrière vous lorsque vous venez en France, du moins lorsque vous entrez dans mon club. On disait juste que ces gars, que le patron fit un signe de tête à plusieurs serveurs qui s'approchèrent des Américains. « Ok, ok, » dit le nommé Jim. « Allons-y, les amis. » Il regarda le patron en secouant la tête. « Vous avez perdu l'esprit, monsieur. » À la porte, l'un des types se retourna et cria vers Siméon et Babé. « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, les gars. » Vous feriez bien de rester ici avec ces amoureux des nègres, car aux États-Unis, il vous faudra apprendre pas mal de leçons douloureuses. Années 60, Goutte d'or. Siméon regarda la chambre. Il y avait une table pliante, un placard, une valise. Le lavabo était à demi arraché du mur. Il n'aimerait pas vivre ici, pensa-t-il, mais il avait vu des logements encore pires dans South Street. Ahmed expliqua, c'est seulement en partie la chambre de Hossein. Elle est à lui 8 heures par jour. Deux autres hommes y logent aussi, 8 heures chacun. Ils dorment à tour de rôle. Ainsi, ils partagent le loyer en trois. Aucun d'eux n'est assez riche pour payer le loyer tout seul. Siméon se leva et alla à la fenêtre. Il faisait nuit maintenant. Sous les lampadaires, il vit les hommes oisifs et les flics avec leurs mitraillettes. C'était le quartier de la Goutte d'Or, lui avait dit Ahmed en traduisant ce nom en anglais avec un sourire sardonique. Les Algériens doivent-ils vivre dans certains quartiers ? Demanda-t-il en se retournant. Ahmed haussa les épaules. Il n'y a aucune loi, dit-il, si c'est ça que tu veux savoir. Mais nous nous heurtons sans cesse à « Désolé, rien à louer, désolé, nous sommes complets. » Tu comprends ? Ah oui, oui, je vois très bien.
Enfin le récit. Enfin, le récit se clôt par cette manifestation du 17 octobre 1961, ou plutôt du massacre du 17 octobre 1961, conséquence de la répression meurtrière par la police française, d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN dans un contexte de guerre d'indépendance. C'est le préfet Papon qui dirigeait alors la police de Paris. On sait aujourd'hui, selon les sources, qu'il y eut entre 50 et 400 morts, que plus de 1600 Algériens furent expulsés dans les semaines qui suivirent. Ce n'est que le 28 mars 2024 que la résolution réclamant au gouvernement une journée commémorative de ce massacre est adoptée par 67 voix pour, 11 contre, tous du RN, du Rassemblement national, et 4 abstentions, 494 députés n'ayant pas pris part au vote.
octobre 1961, Paris. En début de soirée, plus de 30 000 Algériens quittèrent leur bidonville et leur banlieue misérable, leurs chambres d'hôtel surpeuplées et leurs cafés tristes, puis à pied, en métro, en train ou en bus, ils convergèrent vers le centre de Paris. Les boutiquiers et les vendeuses, allant au cinéma, sur les grands boulevards, les hommes d'affaires bien habillés, les cadres supérieurs et les touristes prenant un verre dans les cafés de l'avenue de l'Opéra, les amoureux bien nourris en promenade le long de la Seine, tous regardèrent avec surprise et indignation les hordes de bicots vomis par leur ghetto et prenant possession des rues de la capitale. Différents groupes d'Algériens rejoignirent les points névralgiques, les grands boulevards, l'avenue de l'Opéra, la rue du Bac, le boulevard Saint-Michel, les quais de la Seine. Des hommes, aux vêtements miteux, leurs costumes du dimanche, marchaient aux côtés de femmes qui étaient souvent accompagnées de leurs enfants ou qui portaient leurs bébés dans les bras. Les hommes et les garçons criaient des slogans nationalistes « Vive le FLN, vive l'Algérie libre, l'Algérie aux Algériens ». Les femmes et les jeunes filles poussaient leur voix vers les aigus pour émettre ce gémissement glaçant que Siméon avait entendu jaillir de la bouche de Latifa et de Djamila. La circulation automobile fut entièrement bloquée. Les policiers qui se ruaient vers ces rassemblements devaient se frayer d'un passage à travers de centaines de véhicules immobilisés dont les chauffeurs klaxonnaient. Les passants se réfugièrent très vite dans les cafés ou les cours d'immeubles. Les rideaux de fer claquèrent devant les vitres des magasins, les volets en bois se fermèrent sur les fenêtres des appartements. Ceux qui détestaient ou n'aimaient pas les Algériens, la majorité les insultèrent. Ceux qui sympathisaient avec leur cause prièrent pour eux. Les sirènes hurlaient au loin, la police arrivait.
Les affrontements commencèrent simultanément dans tous les quartiers où les Algériens étaient concentrés. Les policiers, armés de longues matraques blanches, convergèrent depuis les rues adjacentes et attaquèrent. En théorie, les charges de la police française servaient à diviser les manifestations en groupes peu nombreux et à disperser les manifestants. Mais il était clair que ce soir-là, les policiers voulaient du sang. Tandis que les sections de combat chargées, des rangées de policiers armés de matraques et de mitraillettes, bloquaient chaque rue et interdisaient toute fuite. Les charges de la police isolaient de petites poches d'Algériens. Chacune de ces poches était ensuite entourée par des flics qui tabassaient méthodiquement hommes, femmes et enfants. Siméon vit des vieillards matraqués après qu'ils furent tombés à terre, parfois par 5 ou 6 policiers en même temps. Il vit des corps sans vie qu'on continuait de frapper encore et encore. Lors de scènes d'un sadisme inouï, Siméon vit des femmes enceintes matraquées au ventre, des nouveau-nés arrachés à leur mère et projetés au sol à toute volée. Le long de la Seine, les policiers soulevèrent des Algériens inconscients et les lancèrent dans le fleuve. La biographie de William Gardner Smith éclaire également le contenu de son roman. Né en 1927 à Philadelphie, il devient journaliste au Pittsburgh Courier, puis arrive en France en 1951, comme certains écrivains, James Baldwin par exemple, qu'il côtoiera. Puis il est recruté par l'AFP en 1954. Il commence à écrire Le visage de Pierre en 1961, au moment où la guerre d'Algérie exacerbe les passions en France et que lui-même y vit. Enfin, il est l'auteur de 6 ouvrages depuis Last of the Conquerors en 1948, où il raconte son service militaire dans les troupes d'occupation en Allemagne. Il meurt à 47 ans à Thiès, commune du Val-de-Marne.
Alors Gérard, que peux-tu nous dire à propos de l'habillage musical ?
Eh bien, Siméon, le héros du roman de William Gardner Smith, Le visage de Pierre, passe ses nuits dans les caves et les clubs de jazz parisiens pour écouter une musique en pleine éruption dans ces années 1950-1960. On se presse alors pour venir voir et écouter les créateurs américains en tournée dans les capitales européennes, dont Paris. Mais pour voir et écouter également, il ne faut pas les oublier, les musiciens locaux français, excellents jazzmen. On a fait le choix de puiser dans les enregistrements réalisés à Paris dans ces années-là, par quelques stars. Round Midnight, le morceau standard, le standard de Thelonious Monk, interprété par Miles Davis et John Coltrane lors du concert à l'Olympia du 21 mars 1960. Et on a écouté également Stairways to the Stars, enregistré en 1963, avec une distribution étourdissante, Dexter Gordon au saxophone ténor, Bud Powell au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clarke, le maître du bebop, installé définitivement à Paris, à la batterie. Et au retour sur le morceau Round Midnight par son créateur en perso, Thelonious Monk, seul au piano en 1954. Et pour le dernier extrait lu du roman, celui qui fait le récit du carnage du 17 octobre 61, on ne pouvait pas rater le chanteur kabyle, joueur de mandoline et de luth, émigré algérien à Paris dès l'âge de 19 ans, OS chez Citroën, Akli Yahya Ten et son hymne Yel Menfi, le banni, chanson composée en prison où on l'avait jeté car soupçonné de collecter des fonds pour le FLN et où il fait référence au 17 octobre 1961. «
la chronique cinéma.
Alors Paul, de quoi vas-tu nous parler dans ta chronique ?
Alors je vais vous parler d'un film documentaire consacré au massacre du 17 octobre 1961, tourné dans une urgence politique avec la volonté de filmer une réalité immédiate car le tournage commence le lendemain du massacre. Il s'intitule « Octobre à Paris » et il est réalisé par Jacques Panigel.
Je voudrais dire quelque chose avant que ce film commence. Je suis un Algérien, mon nom est Kader. Je connais très bien tout ce que vous allez voir et entendre. J'ai vécu à Paris toute la guerre d'Algérie. Et tout ceci est vrai. Mais c'est vrai aussi que des Français ont fait ce film. Je les connais très bien. Et je ne les oublierai jamais. Je pense si toute cette misère était arrivée ailleurs qu'en France, est-ce qu'il y aurait eu des gens pour faire un film ? Est-ce qu'il y en aurait eu un film ? Honnêtement, je ne crois pas.
Ces Français dont parle Kader, l'homme qui a introduit le film, ce sont les membres du comité Maurice Audin, un groupe de militants opposés à la guerre d'Algérie, qui produit le film. Une équipe de techniciens militants, parmi lesquels Jacques Brecht, Yann Lemasson et Pierre Clément, est regroupée autour de Jacques Panigel. Ce dernier n'est pas un cinéaste de profession, il est médecin immunologiste, militant politique qui a manifesté son engagement par l'écriture et la réalisation cinématographique. Dès le lendemain de la manifestation violemment réprimée par la police française, Panigel commence à enregistrer des témoignages des témoins et des victimes du massacre. Mais aussi de manière plus générale sur les conditions de vie des Algériens en France pendant la guerre. La première moitié du film est consacrée aux violences subies quotidiennement par les Algériens. Les hommes racontent face à la caméra les violences commises par les policiers français et par les militants harkis. Ils racontent avoir été torturés et font une description précise des actes de torture qui leur ont été infligés. Certains montrent leurs cicatrices. Ces hommes témoignent aussi des méthodes mises en place par la police pour organiser cette violence systémique. La surveillance, le contrôle permanent, les enfermements dans des camps pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans le Larzac ou à Vincennes. Ce sont souvent les visages des personnes qui s'expriment qui sont filmés. On voit parfois des images des lieux de torture, surtout des caves de café. Panigel tourne aussi dans des bidonvilles où vivent les Algériens qui racontent leurs conditions de vie. Une pièce pour 9 personnes, sans eau ni électricité. Ils subissent des descentes de police ou de harkis qui s'introduisent dans les logements au milieu de la nuit en cassant les portes. La deuxième moitié du film est consacrée au massacre de la manifestation du 17 octobre. Elle s'ouvre par une reconstitution de la réunion du FLN qui a décidé, en opposition au couvre-feu imposé aux Algériens, l'organisation de la manifestation. Cette séquence est réinterprétée par les personnes qui ont participé véritablement à la réunion. Ils évoquent les lieux de rendez-vous, le parcours de la manifestation et insistent sur le caractère pacifique de celle-ci. Panigel n'ayant pas filmé la manifestation et sa répression, il utilise l'art du montage pour la reconstituer. Il récupère le peu d'images que la télévision a filmées grâce à des militants qui y travaillent. Il réutilise surtout les photographies d'Eli Kagan. Ce que ces images fixes ne disent pas, ce sont les voix qui nous le racontent. Les témoignages sont accablants pour la police française. Des centaines de manifestants ont reçu des balles ou des coups de matraque, et ils en montrent les traces sur leur corps à la caméra. Des hommes retournent sur des lieux de violence pour raconter la manière dont ils ont été, parfois spontanément, parfois méthodiquement, jetés dans la scène. Le film se termine par un commentaire en voix off qui élargit l'horizon de la violence policière. Le 17 octobre continue, entend-on. En effet, il se poursuit sur la répression du 8 février 1962 qui a lieu autour de la station de métro Charonne. Tout ce que cette violence annonce, c'est cela.
Cet homme saoulé de coups ne sait pas où il en est. Au fascisme, simplement, il commence ici. C'est tellement clair. Qu'est-ce qu'il faut donc encore ? Pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un Youpin. Que tout le monde est un Bico. Tout le monde.
Avec Octobre à Paris, Jacques Panigel est l'un des premiers cinéastes à filmer la parole. Le cinéma direct en est à ses débuts en France. Chronique d'un été d'Edgar Morin et Jean Rouch est tournée en 1960. Le Joli Mai de Chris Marker en 62. Octobre à Paris a été oublié, mais s'inscrit parmi ses œuvres documentaires fondatrices. Jacques Panigel a pris la caméra pour ne pas que le massacre du 17 octobre soit oublié. C'est son film qui a été invisibilisé. Octobre à Paris est censuré par le gouvernement. Pendant plusieurs années, il n'est montré que lors de projections clandestines. Et la fin de la guerre d'Algérie ne signifie pas pour autant la levée de l'interdiction. Le film obtient son visa d'exploitation en 1973. Après une grève de la faim du cinéaste anticolonial René Vautier, réalisateur d'Afrique 50 et avoir 20 ans dans les Aurès. Il ne connaîtra de sortie en salle que le 19 octobre 2011, 50 ans après le massacre. Les témoignages d'Octobre à Paris participent de l'écriture de l'histoire. Il s'agissait d'une nécessité politique de les diffuser, et c'est pourquoi ils ont été invisibilisés. Je terminerai cette chronique par une phrase de l'universitaire Nicole Brenes que j'avais déjà lue en septembre. mais dont le sens est encore plus lourd aujourd'hui. Elle y rend hommage à tous ces films qui, s'ils avaient occupé une place différente dans le patrimoine cinématographique français, peut-être la situation politique en aurait aujourd'hui été autrement. Je cite « On ne peut s'empêcher de penser que, si les critiques, historiens et programmateurs de cinéma faisaient leur travail aussi correctement que les ouvriers du bâtiment Kabyle ou les éboueurs maliens, autrement dit, si les admirables films de Djoura Abouda et Alain Bonamy, elle parle de Ali au Pays des Merveilles, de Sidney Sokona, réalisateur de nationalité immigrée dont j'ai parlé en février dernier, ou encore l'essai global de René Vautier, déjà le sang de mai, ensemencé novembre, étaient devenus les classiques du cinéma qu'ils devraient être. Peut-être un champ transactionnel pour favoriser des dialogues possibles aurait-il été établi. Peut-être les fossés culturels n'auraient-ils pas continué à se creuser. Peut-être n'aurions-nous pas une extrême droite raciste aux portes du pouvoir et régnant de toute sa toxicité triomphante sur les débats politiques aujourd'hui en France. Bien sûr, certainement, que je rêve au pays des images. »
Parole de libraire. Nous sommes 569, route de Toulouse à Villenave-d'Ornon, devant la librairie Le Partage des mots, où nous allons rencontrer Catherine Vial. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, nous raconter vos premiers pas de libraire?
Alors du coup, je suis Catherine Vial, donc ma librairie se situe à Villenave-d'Ornon, c'est Le Partage des mots, voilà, route de Toulouse à Villenave-d'Ornon. Alors mes premiers pas de libraire, moi j'ai fait des études il y a très longtemps dans les métiers du livre, puisque j'étais à l'IUT de Bordeaux, métier du livre, dans les années 80, fin des années 80, donc ça remonte. Après j'ai pris une voie différente après mes études, puisque j'ai travaillé dans une collectivité territoriale pendant très longtemps. Et dans les années 2000, même fin des années 2000, j'ai eu envie, parce que moi je réside à Villenave-d'Ornon depuis 2014 et en Gironde depuis 1986. Donc je connais bien la Gironde, j'ai habité Gradignan, maintenant Villenave. Et donc j'ai eu une envie de créer une petite maison d'édition, très petite maison d'édition vraiment, voilà, que je gérais bénévolement, autour de livres jeunesse. Voilà, et puis ça, pendant quelques années, du coup, je me suis occupée de cette maison d'édition, ce qui m'a permis aussi de me replonger dans les métiers du livre, puisque je faisais des salons, je côtoyais beaucoup de libraires, des éditeurs, etc. Et voilà, à l'orée de mes 50 ans, je me suis dit pourquoi pas réaliser mon rêve de jeunesse, puisque moi j'ai toujours voulu travailler, j'étais une lectrice assidue pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, même après, enfin moi j'ai toujours beaucoup lu. Et mon rêve, voilà, j'avais fait des études pour ça à la base, c'était de travailler dans le milieu du livre. Donc, habitant Villenave-d'Ornon, qui n'a pas de librairie indépendante, il n'y en a jamais eu, je me suis dit pourquoi pas créer une librairie à Villenave-d'Ornon. Alors après, bon, il a fallu que je cherche le local, etc., ça fasse une étude de marché, bon. Voilà, une aussi que je me replonge un petit peu dans le métier de libraire, donc j'ai fait une formation de reconversion. Mmh. Et du coup, en fin 2019, j'ai pu trouver un local. Du coup, en septembre 2019, j'ai trouvé ce petit local qui faisait 45 mètres carrés et qui, à la base, est un magasin de fruits et légumes. Donc, il n'y avait même pas de devanture. C'était ouvert sur la rue. Donc, j'ai dû faire une devanture, etc., l'aménager. Et tout ça, ça s'est fait en 2 mois et demi, puisque moi, ce que je voulais, c'est ouvrir rapidement. J'avais pas trop le choix, c'était compliqué financièrement. Donc j'ai trouvé le local en septembre 2019 et j'ai ouvert le 30 novembre 2019. Voilà.
Bravo. Donc votre librairie est une librairie, vous l'avez dit tout à l'heure, de quartier, hein, voilà, qui est donc d'une taille réduite, même si apparemment il y a beaucoup de livres. Et vous êtes librairie généraliste également, mais nous supposons que vous avez quand même peut-être des coups de cœur, des choses comme ça qui vous plaît plus. Comment on arrive à faire une librairie généraliste et puis mettre en avant ses propres plaisirs de lecture?
Oui, donc j'ai une librairie généraliste, j'ai à peu près plus de 8000 références là dans la librairie. Et alors, bon, ce qu'il y a, c'est que l'avantage quand on est libraire indépendant, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout prendre. Alors forcément, je fais un mix entre les... Voilà, je regarde les meilleures ventes. Il faut aussi que je puisse, comme c'est la seule librairie indépendante de Villeneuve, ça reste un commerce, offrir aussi les titres que les gens cherchent, dont ils ont entendu parler. Et après, bon, voilà, le plaisir que j'ai aussi, c'est de choisir... Parce qu'on a énormément de catalogues de nouveautés, alors parmi des petits éditeurs ou des éditeurs moins connus ou des auteurs moins connus, de faire mes propres choix. Donc, ce que je fais, c'est que je lis les livres que j'ai envie de lire et je fais des petites notes sur les livres, comme beaucoup de libraires. Et c'est vrai que ma clientèle aime beaucoup, que je les guide dans leurs choix, en fonction de moi, mais ce que je mets en avant. Après, voilà. Donc, il y a aussi mes petites marottes, puisque moi j'avais fait beaucoup de danse, donc il y a un petit rayon danse, il y a un petit rayon chat, parce que j'adore les chats aussi, il y a un petit rayon plus de livres sur les femmes, ça va du féminisme même jusqu'à la ménopause, puisque voilà, c'est des sujets, moi j'y suis en plein, donc c'est bien aussi de pouvoir conseiller en fonction de son expérience. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a beaucoup de notes sur les livres, j'essaie de lire au maximum parce que. Voilà, c'est le plus d'une libraire indépendante, c'est pouvoir conseiller, une personne qui rentre avec une idée bien précise peut partir parce qu'elle a vu un livre avec un mot qui lui plaît et voilà, elle change d'avis. Donc c'est le plaisir de ce métier de libraire indépendant.
Et tout ça toute seule, et vous faites donc tout, ça doit vous prendre votre vie entière.
Ah oui, c'est un métier, de toute façon, libraire, c'est un métier de passion, hein, parce que c'est pas un métier pour s'enrichir, faut pas y compter. C'est un métier qui prend énormément de temps, parce que voilà, moi je gère vraiment la librairie toute seule, j'ai pas les moyens d'avoir des employés, c'est clair, hein, des personnes qui m'aident, donc je suis toute seule à tout gérer, donc ça va des commandes à la comptabilité, à la vente, bien sûr, et je fais tout toute seule, du coup, ranger la librairie, réassort, commande de nouveautés. Enfin, voilà, il faut tout faire toute seule. Et surtout, trouver aussi du temps pour lire. Donc ça, c'est contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, c'est pas à la librairie que j'ai le temps de lire, mais c'est chez moi, quand j'ai mes jours de repos ou le soir.
Bravo.
Et êtes-vous parfois confronté à un dilemme? C'est choisir entre vos goûts personnels et la nécessité de vendre.
On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, je fais un. Il y a forcément une nécessité de vente, donc il faut présenter ce que les gens. Les livres qui se vendent, les livres du moment, comme on dit, les livres. Parce qu'il y a des. Voilà, il y a un livre qui sort. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la durée de vie d'un livre, c'est assez court. Parce que voilà, le livre, on va me le demander. Par exemple, je prends l'exemple de La Route de Manuel Arsenet. Voilà, on me l'a demandé pendant 3 semaines et après, bon, ça s'est tari, quoi. Donc voilà, donc il faut avoir ces livres-là au bon moment. Et après, voilà, le dilemme, c'est aussi de présenter des livres que j'ai envie de défendre, mais qui sont un petit peu moins sur le devant de la scène. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire aussi.
D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure, vous êtes une librairie de quartier. Est-ce que vous avez un rôle social aussi dans ce quartier? Qui est de Villeneuve.
Alors moi je pense que voilà une librairie de quartier ce qui est bien pour toutes les personnes par exemple moi j'ai beaucoup de personnes âgées qui ne conduisent pas, qui ne peuvent pas aller ailleurs, donc elles sont contentes, elles vont voilà au petit supermarché, après elles vont acheter leurs livres. Donc il y a toute cette dynamique de quartier et c'est vrai qu'une librairie c'est aussi un lieu de vie parce que voilà les gens aiment venir parler, échanger, des fois il y a des rencontres entre des personnes qui sont là autour d'un livre, on parle de sujets qui sont évoqués dans les essais, les livres qui sont présentés, etc. Donc oui, effectivement, c'est alors le rôle social, je sais pas, mais en tout cas oui, je pense que c'est un commerce un peu à part quand même, une librairie, et c'est vrai que les personnes qui rentrent ont envie d'un échange. C'est pas uniquement venir acheter un produit et sortir, il y a tout un échange autour de la littérature, des sujets d'actualité, etc.
Et vous êtes près d'un lycée, est-ce que vous avez des lycéens qui viennent vous voir?
Oui, alors moi j'ai un collège, j'ai un lycée, j'ai beaucoup d'écoles aussi, donc oui, il y a des lycéens qui viennent, alors pas seulement, bon, évidemment pour les livres scolaires, mais aussi pour, voilà, des fois me demandent conseils, un jeune qui a envie de lire un classique, il n'achète pas que des mangas forcément, même s'ils en achètent beaucoup de mangas, mais... Parfois, oui, voilà, je peux les emmener vers autre chose ou leur conseiller, voilà, un classique que j'ai aimé ou pour leur voilà, pour les emmener vers autre chose.
D'accord. Alors, comment vous faites dans votre librairie là pour mettre en valeur les livres? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce que vous arrivez aussi à recevoir des auteurs ou des éditeurs?
Alors bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en valeur les livres, c'est mettre des petits mots, oui, quand je les ai lus. Donc voilà, et les mettre aussi, les présenter sur les tables. Bon là, je présente les livres voilà, que j'ai envie de défendre. Et après, alors dans ma librairie, c'est une petite librairie, donc au niveau des dédicaces, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Moi, ce qui fonctionne bien, c'est que je fais beaucoup de jeux, par exemple, des jeux de dessin, parce que en fait, j'ai mon compagnon qui est auteur de bande dessinée, donc on fait beaucoup d'expositions, de planches de bande dessinée et de jeux autour du dessin. Donc voilà, ça marche bien. Là, par exemple, je vais en faire un pour partir en livre, voilà, dessiner autour des Jeux Olympiques, etc. Donc voilà, ce qui fonctionne chez moi, c'est plus tout ce qui est interactif, c'est-à-dire voilà, où il y a des participations à des jeux, des soirées, voilà, où il y a la nuit One Piece, il y a des choses comme ça qui les jeunes viennent. En même temps, ça leur fait découvrir une librairie parce qu'ils vont voilà, un lieu qu'ils fréquentent pas forcément. Donc voilà, c'est plus des dédicaces simples d'auteurs, plus des événements ou des jeux, participatifs, qui dynamisent un petit peu. Voilà, c'est plus ce genre de...
Et pourriez-vous nous conseiller un ou deux livres pour notre bibliothèque idéale qui condamne les oppressions, quelles qu'elles soient, hein?
Oui, alors là, j'avais envie de vous présenter un livre que j'ai lu il y a quelques temps, c'était, je pense, début d'année. Donc, c'est un roman de Catherine Bardon, le titre est « Une femme debout », voilà, qui est paru il y a quelques mois. Et en fait, c'est une biographie romancée de Sonia Pierre. Donc, c'est une femme qui a consacré sa vie à défendre les droits humains des migrants haïtiens en République dominicaine. Parce qu'en fait, ses parents avaient migré d'Haïti en République dominicaine dans les années, 50-60, pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en République dominicaine, les travailleurs comme ça, haïtiens, n'avaient aucun droit. Donc elle, à 13 ans, elle a participé à sa première grève, en fait, avec les ouvriers de la canne à sucre. Et en fait, ça a déclenché son engagement. Donc voilà, après elle a fait des études, elle a pu faire des études parce qu'elle a rencontré un missionnaire qui l'a aidée aussi, et elle est devenue avocate, et elle a fondé le mouvement des femmes dominico-haïtiennes, ce qui s'appelle le MUDA, et donc elle s'est battue toute sa vie en fait pour défendre les droits des Haïtiens, de leurs descendants, parce que ils n'étaient même pas reconnus en République dominicaine, ils n'avaient aucun droit, ils n'avaient pas de nationalité, etc. Elle va voyager dans le monde entier, elle va aussi subir des menaces, parce qu'il y avait aussi voilà, des opposants, etc. Et elle va même décéder, elle se consumera tellement dans son combat qu'elle va décéder prématurément à l'âge de 48 ans. Donc elle est décédée très jeune. Et donc en fait, Catherine Bardon, dans ce roman, là, Une femme debout, elle nous embarque dans le sillage de cette héroïne. Et à travers ce roman, elle rend hommage aussi à une femme exemplaire, en fait, vraiment exemplaire de par son engagement. Oui.
Eh bien, écoutez, très bien, on va lire ce livre sous vos conseils. Et en tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Et puis, nous vous souhaitons toute la réussite possible pour votre si belle librairie. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
C'était l'époque des yéyés. Et à Paris comme à Alger. Le week-end, c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. La mode est à la taille fine. Les blousons noirs portent les jeans. Robe à pois bleus et bigoudis. Oh, il parade, stand by me. Un voyage autour de la terre. Gagarine sans voix en l'air. Bien touchante son légionnaire. Le savait-elle, le tortionnaire. Au cinéma des grands boulevards. Psychose et la tulipe noire. Sont à l'affiche ce mardi aux côtés de West Side Story. Ils se dirigent vers la ville. Ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. enfants, vieillards, famille entière dans leurs costumes du dimanche, souliers de cuir, chemise blanche. C'était le temps des colonies, et la nuit tombait sur Paris. C'était l'époque des yéyés, et à Paris comme à Alger. Le week-end, c'est sur la piste, la jeunesse danse le twist. En quatre ailes, on part en vacances, en que tu gagnes le Tour de France. Les rockers draguent les nénettes, pètent aux bananes et aux flaquettes. Du 12 au 13 dans la nuit, à Berlin le mur est construit. Et cette année-là dans Paris, à l'Olympia chante Johnny. Catherine Deneuve devient blonde, Jeanne du régime se joue du monde. De Gaulle dirige la nation, Léon Ferré chante Aragon. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre, enfants, vieillards, famille entière, et par centaines et par milliers, ils sont venus manifester. C'est au couvre-feu de Papon que sans violence ils disent non. C'était l'époque des yéyés, la capitale est quadrillée, car l'Algérien c'est l'ennemi traqué dans les rues de Paris. Collé au mur dans le métro, main sur la tête ou dans le dos, ils disparaissent dans des cars, les gens détournent le regard. Et la police se déchaîne, les corps sont jetés à la Seine. Dans la cour de la préfecture résonnent les cris des injures, à coups de crosse dans les dents, au milieu des gémissements. Femmes traînées par les cheveux, éclats de rire et coups de feu. Ils se dirigent vers la ville, ils arrivent vers les bidonvilles. Les morts se comptaient par centaines, les eaux muettes de la Seine les ont emportés dans la nuit, vers le silence, vers l'oubli. Longtemps après, qui se souvient, 17 octobre 61, c'était l'époque des yéyés.
Il s'agit de la chanson « Manifestation pacifique » qui illustre notre propos par la compagnie Jolimum. C'est une formation musicale et théâtrale fondée en 1983 et basée en région parisienne. Ils sont opposés au système commercial de distribution et ne vendent pas leurs disques dans le commerce, mais à la fin de leur spectacle. Ils ont créé et géré un théâtre depuis 2004, dont ils viennent d'être expulsés par le maire de leur commune, le maire socialiste de leur commune de Saint-Denis. Ils se produisent désormais, et ils ont gagné au change, toujours avec leur drapeau rouge et toujours avec leur théâtre engagé, au théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie de Vincennes, un lieu magnifique auprès d'Ariane Mouchkine. La chronique art de Sarah Vélu. Sarah, de quel artiste va-t-il être question aujourd'hui ?
Je vais vous parler de Zineb Sedira, qui est une artiste franco-algérienne dont l'œuvre explore les thèmes de mémoire, d'identité et de diaspora, souvent en lien avec l'histoire coloniale et post-coloniale de l'Algérie. Née le 1er avril 1963 à Paris, 2 ans après que ses parents originaires d'Algérie se sont installés en France, Zineb Sedira a grandi entre deux cultures, ce qui a profondément influencé son travail artistique. À la suite d'études d'art à Londres, elle choisit d'utiliser principalement la photographie, la vidéo et les installations pour créer des œuvres immersives qui invitent à la réflexion et à la contemplation. L'une des caractéristiques distinctives de l'œuvre de Zineb Sedira est sa capacité à interroger et à reconstruire des mémoires collectives et personnelles. Sa série « Let We Forget » est emblématique de cette démarche. À travers cette production, elle examine le massacre du 17 octobre 1961 et lui redonne de la visibilité. La série se compose de photographies, de vidéos et d'installations qui mettent en lumière les récits souvent oubliés ou négligés des victimes et de leurs familles. Zineb Sedira utilise des images d'archives, des témoignages, des représentations symboliques pour créer une œuvre qui dialogue avec le passé, tout en le mettant en relation avec le présent. Son approche artistique n'est pas seulement documentaire, mais aussi poétique et narrative, cherchant à capturer l'essence émotionnelle et spirituelle des événements qu'elle explore. Son œuvre ne se limite pas à une simple représentation des faits historiques. Elle interroge également les notions d'identité et de diaspora, explorant la manière dont les expériences de migration et d'exil façonnent les individus et les communautés. Dans des œuvres telles que Mother Tongue et Saphir, elle examine les dynamiques de langue, de mémoire et de transmission culturelle entre les générations, souvent en se mettant en scène dans des conversations entre elle et sa mère ou sa fille. Ses œuvres révèlent les tensions et les richesses de l'appartenance à plusieurs cultures et les défis de la préservation des traditions face à la modernité. Un autre aspect important de son travail est son engagement avec les paysages et les environnements, notamment ceux liés à la mer et à la migration. Dans des œuvres comme The Lovers, photographie de deux épaves de bateaux reposant l'une sur l'autre, et Maritime Nonsense and Other Aquatic Tales, elle utilise des images de la mer Méditerranée pour évoquer des thèmes de déplacement, de voyage et de mémoire. La mer, dans son travail, devient un des symboles de la fluidité des identités et des histoires, ainsi qu'un espace de passage et de transition. Les épaves, quant à elles, peuvent évoquer les nombreuses vies perdues dans ces eaux. Elle est également reconnue pour son rôle dans le dialogue artistique entre l'Europe et l'Afrique du Nord. En tant que figure influente dans le monde de l'art contemporain, elle a participé à de nombreuses expositions internationales, dont la Biennale de Venise. Son travail a contribué à sensibiliser le public aux histoires et aux expériences des communautés diasporiques, tout en enrichissant le discours et la diversité culturelle et l'histoire post-coloniale. Elle est la fondatrice de ARIA, résidence d'artistes à Alger, qui a pour objectif de consolider les échanges transfrontaliers et de développer un réseau dynamique au sein de diverses communautés artistiques internationales, tant en Algérie qu'à l'étranger. Elle propose des opportunités aux artistes émergents et confirmés originaires d'Afrique pour mener des recherches et produire des œuvres artistiques et culturelles. Son engagement avec la mémoire et l'histoire se reflète également dans son processus créatif. Elle accorde une grande importance à la recherche et à la documentation, souvent en collaboration avec des historiens, des sociologues et des communautés locales. Cette approche rigoureuse et collaborative lui permet de créer des œuvres qui sont non seulement esthétiquement puissantes, mais aussi historiquement et culturellement pertinentes. Zineb Sedira est une artiste dont le travail traverse les frontières géographiques, culturelles et temporelles. À travers ses œuvres, elle invite le spectateur à réfléchir sur les relations entre l'identité et sa mémoire, en rendant hommage aux histoires et expériences souvent marginalisées. Son art, profondément ancré dans son propre parcours personnel et familial, offre une perspective unique et poignante sur les défis et les beautés de l'appartenance multiple. Vous pouvez retrouver le travail de l'artiste sur son site zinebserida.com.
Merci Sarah. Ainsi se termine l'émission de ce jour. Merci à Gérard, que vous retrouverez mercredi 3 juillet à ce propos. Quel est le menu de cette émission, Gérard ?
Alors, le menu n'est pas encore tout à fait défini. En tout cas, ce sera la dernière de la saison. Avant des rediffusions tout l'été.
Très prochainement, vous pourrez écouter une nouvelle émission proposée par le guide du Bordeaux colonial qui s'appelle En la nommant et qui donne la parole à des militantes et militants autour des chants, slogans et autres mots d'ordre qui illustrent et accompagnent les manifestations.
Alors nous ne pouvons pas ne pas rappeler que la situation politique et électorale aujourd'hui nous appelle plus que jamais à nous mobiliser entièrement pour convaincre le plus grand nombre possible de voter. Le RN est à nos portes, tous et toutes, aux urnes pour faire front. La politique économique, sociale, éducative et culturelle que promet le Rassemblement national est un affront pour celles et ceux qui croient à l'émancipation, à la liberté, à la justice sociale, en fait, aux valeurs humaines. Il n'est pas imaginable d'accepter ça. Il est réaliste de l'empêcher. Alors, toutes et tous, aux urnes, les 30 et 7 juillet.
Notre émission, Moment de littérature émancipatrice, revient normalement mercredi 25 septembre. D'ici là, nous vous souhaitons d'excellents moments riches en lecture, bien sûr, et qui ne le seront d'ailleurs que si nous avons réussi à repousser l'extrême droite du pouvoir. Alors, encore une fois, votons et faisons voter pour les candidates et candidats du Front populaire, seuls à pouvoir s'y opposer.